Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 12 novembre 2015, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui sur la résolution proposée par la France sur le Burundi.
Nouvelles allégations d'abus sexuels contre des casques bleus en République centrafricaine.
Une première au Niger où des députés de l'opposition veulent entamer une procédure de destitution du président Issoufou Mahamadou.
L'équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema va briguer un autre mandat de 7 ans après 36 ans au pouvoir.
À Kaboul, des milliers d'Afghans sont descendus hier dans la rue pour dénoncer la décapitation de 7 civils, dont 2 femmes et une fillette, par le groupe État islamique.
Le Conseil de sécurité, nous y reviendrons donc tout à l'heure, mais ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU votera aujourd'hui à 17h, temps universel, sur une proposition de résolution française destinée à mettre fin à la violence au Burundi, ont indiqué des diplomates hier soir. Jean-Roger Bion.
Il est prévu dans le texte de cette résolution une condamnation des violences et une menace de sanctions contre les dirigeants burundais qui incitent à la violence. Par ailleurs, et selon des diplomates à New York, l'ONU pourrait dépêcher des casques bleus au Burundi si le calme ne retournait pas rapidement dans ce pays. Une option à l'étude, l'utilisation de soldats de la MONUSCO déployés en RDC voisine. L'ambassadeur britannique Matthew Rycroft assure que le Conseil de sécurité est résolu à faire tout ce qui est possible pour accentuer les pressions sur les autorités de Bujumbura et mettre en garde contre les atrocités de masse. L'Union africaine pourrait aussi envoyer une force de maintien de la paix au Burundi, mais à Bujumbura, les responsables gouvernementaux assurent que le Burundi ne brûle pas et qu'il n'y a aucun risque de meurtre de masse. La communauté internationale redoute des violences à grande échelle, certains durs du pouvoir burundais ayant récemment multiplié les propos incendiaires aux connotations ethniques dans un pays à l'histoire post-coloniale jalonné de massacres entre Hutus et Tutsis.
La mission de l'ONU en Centrafrique a reçu de nouvelles allégations d'agressions sexuelles commises par des casques bleus de la MINUSCA contre des femmes et des jeunes filles, dont plusieurs sont désormais enceintes. C'est ce qu'a déclaré hier un responsable de l'ONU cité par l'AFP. La MINUSCA a été informée aujourd'hui d'allégations concernant 5 femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des casques bleus. 3 d'entre elles ont moins de 18 ans, a précisé ce responsable qui s'exprimait sous couvert d'anonymat.
Concernant toujours la Centrafrique, la visite fin novembre du pape François dans le pays s'annonce risquée, selon le ministère français de la Défense. Les précisions de Félix Yepassi Zembrou.
Des centaines de milliers de chrétiens vont affluer des pays voisins comme le Cameroun ou du Congo-Brazzaville sur des routes non balisées, d'après l'entourage de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. La force Sangaris, avec seulement 900 hommes, n'aura pas assez de moyens pour faire face à cette affluence de fidèles catholiques, avertissent les mêmes sources. La France lance un avertissement à peine voilé, disant que Sangaris pourra assurer la sécurisation de l'aéroport et fournir une capacité d'évacuation médicale en cas d'accident, mais ne pourra pas aller plus loin. La République centrafricaine n'a pas encore totalement reconstitué une armée et une force de la police capable de gérer des mouvements de foule. Le pape François, qui se rendra pour la première fois sur le continent africain, visitera d'abord le Kenya, l'Ouganda, puis la Centrafrique. Le Vatican a maintenu cette visite les 29 et 30 novembre, malgré les récentes violences qui ont fait 61 morts à l'approche des élections du mois prochain en RCA.
En République démocratique du Congo, 2 militants d'un parti d'opposition, arrêtés mardi à Lubumbashi, ont été transférés à Kinshasa, Eric Manirakiza.
Les 2 hommes, connus sous les sobriquets de Zazu et Kakoko, font partie de 8 militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, arrêtés à Lubumbashi. L'armée avait affirmé que leur arrestation était liée à leur implication présumée dans l'incendie de la maison d'un dissident de ce parti, ce que dément cette formation. Ces 2 militants ont été amenés, menottés à bord de l'avion de Congo Airways à destination de Kinshasa. Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'UNAFEC et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a confirmé leur transfert tout en dénonçant un acte arbitraire et politique. L'UNAFEC appartient au G7, groupe de cette partie dont les dirigeants ont été exclus de la majorité en septembre, après avoir mis en garde le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 contre la tentative de s'accrocher à son poste.
Au Burkina Faso, la commission d'enquête sur le putsch raté de septembre dernier assure avoir identifié les commanditaires complices et exécutants du coup de force. C'est ce qu'a annoncé devant la presse à Ouagadougou le président de la commission, Simplice Poda, après avoir remis son rapport au premier ministre Isaac Zida. L'enquête de la commission est différente de l'enquête judiciaire ouverte par la justice militaire. Selon l'entourage de M. Zida, celui-ci a été convoqué aujourd'hui pour être auditionné par la justice militaire.
Une première au Niger où une trentaine de députés de l'opposition ont déposé hier une requête sur le bureau du président du Parlement pour demander la mise en accusation du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour haute trahison. Selon la constitution du Niger, il faut une majorité des deux tiers des députés pour faire passer une telle requête. De Niamey, correspondance d'Abdulrazak Idrissa.
Dans la requête datée de ce 11 novembre 2015, les 34 députés signataires, tous de l'opposition, demandent à la représentation nationale de voter la mise en accusation pour haute trahison du président de la République Issoufou Mahamadou. Les faits constitutifs de haute trahison de la part du magistrat suprême selon le texte des signataires sont de deux ordres. Premièrement, compromission des intérêts du peuple à travers l'affaire de la restitution des devises étrangères de près de 9 milliards de francs CFA saisies par la à l'aéroport de Niamey récemment et la signature d'un contrat léonien avec une des filiales du groupe français Areva pour l'exploitation de l'uranium. Deuxièmement, le soutien ou la caution de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conformément à l'article 144 de la Constitution, la mise en accusation du président de la République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale. Reste à savoir si les signataires auront les 74 députés requis pour faire passer le texte. Reste aussi à savoir si la requête sera discutée vu le silence du règlement intérieur sur la procédure à suivre pour examiner une telle requête, une première dans l'histoire démocratique du Niger. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Le jeune rappeur guinéen soupçonné d'un viol visé par un mandat d'arrêt international a été arrêté et écroué hier à Conakry. Arzuma Compaoré.
Suite au mandat d'arrêt international délivré contre lui, Tamsir Touré a été arrêté et se trouve actuellement à la maison centrale de Conakry, selon Babacar Kassé, porte-parole de la police. Le suspect avait fui en Côte d'Ivoire voisine, avait indiqué le 4 novembre le ministre de la Justice, Cheikh Sako, lors d'une manifestation de femmes contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles. Deux hommes avaient déjà été arrêtés le 29 octobre et inculpés de complicité de viol le 2 novembre. L'un des complices présumés aurait aidé le suspect à fuir et l'autre lui aurait prêté l'endroit où l'agression sexuelle a été perpétrée en juillet dernier. Des images du viol ont circulé sur les réseaux sociaux. Le suspect évoluait dans le sillage du groupe de rap Banlieusard, très populaire en Guinée. Depuis que cette affaire a éclaté, le groupe de rap a pris ses distances, assurant ne plus travailler avec lui depuis fort longtemps.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, des milliers de personnes ont marché hier à Kaboul pour dénoncer la décapitation de 7 civils, dont 2 femmes et une fillette, par le groupe État islamique. Les forces de sécurité ont tiré des coups de semonce pour empêcher les protestataires de forcer les grilles de la présidence. Les précisions de Bagassi Koura.
Les suppliciés des membres de la minorité chiite des Hazaras avaient été enlevés il y a plus d'un mois. Leurs corps décapités ont été retrouvés dimanche dans la province méridionale de Zaboul. La nouvelle a déclenché une vague d'indignation dans le pays. Portant des cercueils, des protestataires ont défilé dans les rues de Kaboul sous une pluie glaciale avant de converger sur le palais présidentiel. « Abat les talibans, abat Daesh » criait-il en accusant le président Ashraf Ghani, son chef de l'exécutif Abdullah et leur gouvernement de n'avoir pas fait grand-chose pour libérer les victimes après leur enlèvement. Dans un discours à la télévision nationale, le président Ghani a appelé au calme, assurant qu'une enquête spéciale a été lancée pour traduire les auteurs du massacre en justice. De son côté, un porte-parole des talibans a confié à VOA que son groupe n'est pour rien dans la décapitation des 7 civils.
Les Européens vont s'efforcer aujourd'hui à Malte d'éviter d'apparaître comme une forteresse aux yeux d'Africains avec lesquels ils vont signer un plan d'action censé endiguer le flux des migrants qui met à mal leur cohésion.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'inquiète des projets de réduction de leur aide au développement par les pays d'Europe du Nord qui tentent de dégager des fonds pour faire face à la vague de migrants qu'ils reçoivent.
Par ailleurs, M. Ban a nommé hier le diplomate italien Filippo Grandi au poste de haut-commissaire aux réfugiés, où il aura pour tâche de s'attaquer à la crise des réfugiés la plus grave de l'histoire. Le diplomate de 58 ans succède au portugais Antonio Guterres, qui occupait cette fonction depuis 2005.
À présent, la Minute Éco avec Anastasie Toudièche.
ABI, leader mondial de la bière, a racheté l'anglo-sud-africain Saab Miller pour 112 milliards de dollars, une acquisition qui donnera naissance au premier véritable géant planétaire de la bière, générant autant de revenus que Pepsi et présent dans la moitié des pays du monde. La société Saab Miller, présente dans 17 pays africains, dispose de 7,5 milliards de dollars de revenus et possède 28 brasseries, employant près de 25 000 personnes. Sachez que la consommation de bière progresse chaque année de 6% sur le continent. Selon l'index de la vente de détail mondiale 2015 que vient de publier le cabinet de conseil A.T. Kearney, les détaillants africains se développent 4 à 5 fois plus vite que les détaillants des États-Unis d'Amérique et d'Europe. Le Botswana, l'Angola, le Nigeria, la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont en tête des 30 meilleurs pays pour l'investissement dans la vente de détail. Le rapport indique également que la demande dans le secteur du détail va continuer à croître parallèlement à l'essor de la classe moyenne africaine. Deux défis majeurs restent cependant pour les pays africains. Proposer des réglementations fiscales attrayantes qui permettront un meilleur positionnement des PME du secteur et optimiser la chaîne d'approvisionnement.
Les sports maintenant avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Hervé Renard, limogé de Lille.
Ah oui, le club français a annoncé hier avoir mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur, et ce à peine 3 mois seulement après son arrivée dans le club nordiste. Le LOSC est actuellement 16e de Ligue 1. Le club qui explique sur son site internet que l'équipe se trouve dans une position périlleuse et assurément pas à la hauteur des objectifs du club. Hervé Renard est provisoirement remplacé par l'un de ses adjoints, Patrick Collot.
Scandale du dopage dans l'athlétisme mondial, Lamine Diack quitte le CIO.
L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme avait été suspendu mardi provisoirement par le Comité international olympique. Lamine Diack, 82 ans, était entré comme membre du CIO, c'était en 1999, au titre de président de la Fédération d'athlétisme, poste duquel il a démissionné en août. Atteint par la limite d'âge, il était devenu en 2013, à 80 ans, membre honoraire du CIO. Le Sénégalais, je vous le rappelle, a été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé au sujet de cas de dopage en Russie que le dirigeant aurait couvert.
Accusé de dopage généralisé, la Russie accepte d'ailleurs de nommer un spécialiste étranger.
Ah oui, Idrissa, le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, a annoncé la décision de Moscou à 2 jours d'une possible suspension de toute compétition d'athlétisme suite aux accusations de l'Agence mondiale antidopage. Vitaly Mutko a indiqué que le spécialiste étranger pourrait être à la tête du laboratoire antidopage de Moscou, dont le directeur a démissionné. En effet, dans son rapport publié lundi, l'AMA a accusé l'ancien directeur d'être au cœur d'un système généralisé de dopage qui incluait la destruction des tests positifs aux produits dopants. Allez Idrissa, comme d'habitude, comme tous les matins, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
New York 93, Charlotte 95, Los Angeles Lakers 99, Orlando 101, Toronto 119, Philadelphia 103. Indiana 102, Boston 91, New Orleans 98, Atlanta 106, Los Angeles Clippers 108, Dallas 118, Brooklyn Nets 106, Houston 98, Golden State Warriors 100, Memphis 84 et enfin Milwaukee 102, Denver 103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbasongo a décidé de briguer l'an prochain un nouveau mandat présidentiel de 7 ans, ce que lui autorise la constitution du pays, qui a été amendée à la suite du référendum en faveur du oui massif en 2011. Âgé de 73 ans, le chef de l'État équato-guinéen est arrivé au pouvoir en 1979 après avoir destitué son oncle Mathias Nguema. Il a ensuite été élu en 1989 avant d'être réélu en 1996, 2002 et 2009. Sa décision de se représenter en 2016 divise les équato-guinéens. Dans un pays riche en pétrole, mais gangréné par la corruption, le chômage et la pauvreté. C'est du moins ce qu'a confié à Jacques Aristide le journaliste indépendant Samuel Obiang.
Après la réforme constitutionnelle de 2011, où il a encore reçu 2 mandats de 7 années à faire, il entend bien finir ces 2 mandats de 7 années sur de l'accord.
Et les équato-guinéens, comment accueillent-ils cette décision?
En fait, les équato-guinéens sont divisés. Il y en a certains qui tirent un profit ou bénéfice auprès du régime, mais d'autres qui aujourd'hui se trouvent dans une situation pas très favorable, puisque d'après la chute du prix des barils de pétrole sur le marché international, plusieurs entreprises ont fermé et le chômage a augmenté, surtout les jeunes, de 75%, c'est l'estimation aujourd'hui dans le pays. Et ce qui fait que beaucoup, l'annonce hier lui-même, il a évoqué le chômage, la criminalité dans le pays, la délinquance. Il a essayé d'expliquer à la population qu'il n'est pas à l'origine de cette situation. C'est les détenteurs de l'économie mondiale, à l'image des États-Unis, qui ont baissé le prix du baril du pétrole drastiquement pour punir les pays producteurs du pétrole et pour pouvoir manipuler le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la phase de construction, par ailleurs, est finie. Il demandera à son gouvernement d'entamer la phase pour l'industrialisation du pays. Et dans les rues de Bata, dans les quartiers, j'ai pu parler avec plusieurs personnes, ne sont pas convaincus.
L'actuel régime est régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violente répression à l'encontre des opposants politiques, des organisations indépendantes de la société civile et des médias, de même que pour l'ampleur de la corruption dans le pays. Comment le président s'en défend-il?
Le président, il a dit ceci, la démocratie n'est pas un article d'importation. Il faut faire la démocratie ici, d'accord aux réalités du terrain et selon l'endroit où on se trouve. En ce qui concerne le respect des droits de l'homme, il ne se prononce toujours pas par rapport à ces accusations, mais l'homme reste toujours figé sur sa position de ne pas engager une promotion des droits de l'homme dans son pays, puisque la Guinée équatoriale est aujourd'hui, jusque-là, un État policier avec un régime militaire. Donc, où la loi du plus fort et où la loi de celui qui détient l'arme, qui est au niveau de la Guinée équatoriale, ce n'est que les forces armées et de la sécurité, c'est la loi qui règne.
Et le problème de la corruption?
La corruption n'en parle pas parce que si la corruption part au sommet de l'État, ça descend vers le dernier fonctionnaire. Il n'y a personne à demander des comptes. Lorsque les plus hautes autorités du pays, elles-mêmes sont d'abord impliquées dans la corruption, la population est généralisée, la population est à tous les niveaux. C'est pourquoi les auteurs de corruption ne sont pas étudiés.
Le journaliste indépendant Samuel Obiang, joint à Bata, en Guinée équatoriale. Pour revenir sur la crise burundaise, violente sortie hier, mercredi, du parti au pouvoir à Bujumbura contre la Belgique. Le CNDD-FDD a accusé Bruxelles d'armer l'opposition dans l'objectif d'une recolonisation du pays. Des accusations qualifiées de sans fondement par le ministère belge des Affaires étrangères. Timothée de Nangmaï a recueilli la réaction de l'ancien premier ministre belge Louis Michel, aujourd'hui député européen.
Les autorités burundaises ont évolué vers un régime autocratique, despote. Ils ne supportent pas qu'une voix autorisée, je pense, se prononce contre les exactions qu'ils commettent, contre les risques qu'ils font courir à leur population et surtout contre la manière dont ils traitent leur population. Il y a aussi un risque d'exaltation au génocide. Quand on voit les propos du président du Sénat qui est proche du président de Nkurunziza, qui n'a jamais été démenti par le président et qui, au contraire, lui-même en a remis sur cette question, ben, on a tout lieu, évidemment, d'être inquiet et on a tout lieu de se prononcer de manière extrêmement sévère à l'égard de ce qui se passe là-bas. Le président Nkurunziza s'est porté au pouvoir dans l'illégalité, en contravention flagrante avec les accords d'Arusha.
Vous étiez aux accords d'Arusha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui a été décidé là-bas ?
Ce qui a été décidé, c'est le principe d'un homme, une voix. Et ce qui a été décidé, c'est que le président de l'époque, Pierre Bouyoya, quitterait le pouvoir après 18 mois. Ce qu'il a fait en respectant parfaitement les accords d'Arusha. Et ce qui était convenu aussi, c'est que le président élu des scrutins respecterait la Constitution. Or, il a modifié la Constitution. Et ce qui était aussi prévu, c'est qu'il fallait mener des politiques inclusives. Tout ça n'a pas été respecté. Hein.
Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, dit qu'au lieu de crier au génocide, la Belgique devrait encourager les populations des quartiers contestataires à remettre les armes détenues illégalement.
Ce n'est pas ça, véritablement, le problème. Le problème, c'est que le gouvernement et le régime pourchassent sans aucune preuve et tuent tous les jours des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est ça qui est le scandale. Les exactions se commettent tous les jours. Il y a là une situation qui est absolument intolérable. Quand on pense que le ministre, un des ministres responsables au plus haut niveau, le ministre de la Justice notamment, tient des propos qui exaltent à la violence, qui sont des propos menaçants. La sémantique et le vocabulaire utilisé sont des vocabulaires qui ont été utilisés lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda. Donc je pense que toutes les conditions sont remplies pour activer aux Nations Unies le département de prévention des génocides.
Louis Michel, ancien Premier ministre belge.
Tatiana Mosso, je suis avec vous dans Washington Forum cette semaine. Quelle issue pour le Burundi alors que plane plus que jamais l'ombre d'une guerre civile? Depuis lundi, le Conseil de sécurité débat sur la situation dans le pays. La France a initié une résolution pour condamner les violences et leurs acteurs. Sur place, les violations des droits de l'homme ne cessent d'être dénoncées. Alors que penser de cette possible résolution de la communauté internationale? Les négociations au Burundi entre opposition et pouvoir sont-elles possibles? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Les Centrafricains espèrent une sortie de crise avec la tenue d'élections dans leur pays avant la fin de l'année. Mais le chemin est pavé de défis et le nouveau calendrier électoral laisse certains Centrafricains sceptiques. Pour faire le point, Pascaline Magalé a joint à Bangui le président du Conseil national de transition, Alexandre Ferdinand Nguende.
Nous avons reçu le ministre de la Sécurité publique et celui de la Défense. La seule assurance, c'est que le ministre de la Sécurité publique a confirmé que la gendarmerie et la police ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de la population, donc d'où nécessité d'impliquer les forces armées centrafricaines. Donc, le ministre de la Sécurité publique rejoint la position des forces vives de la nation, la position des représentants du peuple, qui estime qu'il faut aujourd'hui nécessairement impliquer les forces armées centrafricaines dans le processus de la sécurisation du pays.
Le ministre de la Sécurité n'étant pas le seul concerné par les élections ni la sécurité en Centrafrique, quel sera donc le rôle des forces internationales ?
Ça a toujours été dit que les forces internationales sont venues en appui des forces de défense et de sécurité. Donc la question de sécurisation du pays revient d'abord aux forces de défense et de sécurité et les forces internationales viennent en appui. Donc c'est ce qui a été dit dans les différentes résolutions des Nations Unies. Si nous voulons aujourd'hui organiser les élections dans des conditions apaisées, il faut nécessairement impliquer les forces armées centrafricaines. Et nous avons fait des propositions tout à l'heure au gouvernement. Ces propositions rassurent les deux communautés, à savoir les chrétiens et les musulmans. Nous avons proposé la mise en place d'un état-major intégré. Dans cet état-major, il faut mettre les FACA, qui sont d'obédience chrétienne et musulmane, pour rassurer les deux communautés. et ces mêmes dispositions doivent être prises dans les différents corps composant l'armée de notre pays.
Est-ce qu'il est prévu un désarmement pour les milices?
Bien sûr, le processus du DDR, je crois, a prévu le désarmement de ces milices. Mais dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas conditionner le désarmement aux élections, puisque le désarmement, c'est un long processus, ça peut prendre plusieurs années. Donc nous demandons urgemment à ce qu'on puisse impliquer les forces intérieures dans ce processus. Et puis nous demandons aussi aux forces internationales de revoir la carte sécuritaire du pays afin d'assurer les bonnes conditions pour permettre aux Centrafricains d'aller désigner leurs représentants.
C'était le président du Conseil national de transition de la RCA, Alexandre Ferdinand Nguende, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Nigeria, 36 ministres et secrétaires d'État, dont 7 femmes, ont prêté serment hier dans la résidence du président Muhammadu Buhari à Abuja. M. Buhari a gardé le portefeuille du pétrole. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Ali Buhari, professeur à l'université de Kessi, près d'Abuja.
Avec la formation de cette nouvelle équipe, le Nigeria va pouvoir bien démarrer sur le plan économique, politique, moral, voire dans tous les domaines de la vie humaine.
Mais les défis sont nombreux et le président Buhari s'est gardé le portefeuille du pétrole.
Il faut qu'il le garde tous les moments parce qu'il a été pendant le régime militaire sous Olusegun Obasanjo, ministre du pétrole, donc il a l'expérience. Et compte tenu de la magouille qui existe au sein de ce ministère, qui est la principale source du revenu du Nigeria, il faut quelqu'un capable de veiller sur ce ministère pour pouvoir remporter assez de revenus. La chute du pétrole au niveau des marchés internationaux a vraiment écroulé le Nigeria sur le plan économique.
C'est dire que Kemi Adeosun, ministre des Finances, aura beaucoup de travail alors.
Pas mal de travail, ce sera un cheval de bataille parce que tout a écroulé avec le gouvernement de Jonathan. La marie était devenue une habitude. Donc maintenant, on veut s'écarter de cette tendance mafieuse.
L'autre défi, c'est Boko Haram. Mohamed Mansour Dan Ali sera à la défense. Est-ce que vous pensez qu'il pourra faire le travail?
D'après le président lui-même, il a choisi avec une concertation de son parti pour pouvoir allouer les ministères à chacun qui est compétent et capable. Donc, il va falloir les laisser un peu de temps pour voir si oui ou non il serait capable de bien diriger les affaires de ces ministères. Mais pour le moment, le président nous a assuré que les ministères sont bien répartis selon la compétence de chaque ministre.
Il suffira maintenant de se mettre au travail, ce qui est un autre défi.
On va se mettre au travail parce qu'on a acquis pas mal de retard. Aujourd'hui même, après l'inauguration, il y a un conseil des ministres qui a eu lieu. Le gouvernement est déjà sur pied.
Ali Buhari, aucun lien de parenté avec le président nigérian. Il est professeur à l'université de Kessi, près d'Abuja, et répondait aux questions d'Idriss Fall.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.